J'aimerais ça vous parler de reconnaissance. La reconnaissance. C'est quelque chose qu'on parle pas souvent, la reconnaissance, parce que dans notre société d'aujourd'hui, c'est beaucoup sur le « me, myself and I hein? ». C'est « donne, 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 donne ». La Bible aussi, elle dit, c'est insatiable, c'est « donne, donne, donne ». Puis notre société d'aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Pas beaucoup de reconnaissance. Puis il y a quelques mercredis, j'avais prêché sur l'Épître aux Colossiens, puis j'avais amené le verset de l'Épître aux Colossiens qui disait « on a tout pleinement en Jésus-Christ ». On a tout pleinement en Jésus-Christ. Puis l'Épître aux Colossiens, je vais vous le résumer en une phrase. Moi, j'avais sorti quatre points que j'ai élaborés, mais je vais vous le résumer en une phrase. C'est dire, l'Épître aux Colossiens, c'est « il faut connaître la volonté de Dieu, premièrement, pour marcher dans le Seigneur, deuxièmement, troisièmement, être fortifié et affermi par lui, et quatrièmement, être rempli de reconnaissance. » Et c'est ça que je veux vous amener ce matin, rempli de reconnaissance. Est-ce qu'on a un cœur rempli de reconnaissance? Les enfants de Dieu, on devrait avoir un cœur rempli de reconnaissance envers le Seigneur, envers ce qu'il a fait dans nos vies. Ça devrait être notre première caractéristique, la reconnaissance. Il y a plus d'un an, on est déménagé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, notre fille vient de s'acheter une maison par ici, il y a quelques mois. Puis hier, j'ai regardé, là, elle était en train de jardiner avec ma femme. Là, ils transplantaient leurs fleurs, puis leurs affaires. T'sais. Puis je suis pas habitué de voir ma fille faire ça. Elle vivait sur le coin d'une rue à Saint-Jérôme, où elle ne pouvait même pas sortir dehors sans être dangereux de se faire frapper par un auto, là, tellement elle était proche de la rue. Puis là, il jardinait. Puis là, je m'assois de cet incite, puis je réalise l'importance d'être reconnaissant. L'importance d'être reconnaissant. L'importance que, moi, ma vie aussi, comment Dieu l'a restaurée dans les dernières années, dans les 4-5 dernières années, c'est extraordinaire. Comment Dieu a replacé les choses. Comment Dieu a replacé ça avec nos enfants aussi, avec la famille, avec les amis. Être reconnaissant. Être reconnaissant avec nos femmes, avec nos familles, avec l'Église. Être reconnaissant envers l'Église. L'Église, c'était la même chose. Lorsqu'on est arrivé ici, il y a un peu plus d'un an, on regardait l'accueil, on regardait la louange, on regardait les frères et sœurs, s'ils n'étaient pas trop étranges. On regardait aussi l'ambiance de l'Église. On regardait la préparation des gens, comment ils se préparaient pour préparer le chant, comment est-ce que ça se faisait. On regardait les fêtes, l'implication, comment de gens préparaient les repas, puis toutes les choses qui... Puis ce qu'on a vu, on a trouvé ça vraiment encourageant. On a dit, c'est une église comme ça qu'on veut se joindre. Et on veut être reconnaissant pour cela. Reconnaissant. On a décidé de choisir cette église-là. Mais la reconnaissance, on ne veut pas juste être reconnaissant à Dieu. On veut être reconnaissant aussi envers les gens. On veut être reconnaissant ce matin envers les gens qui œuvrent semaine après semaine dans cette église à préparer les choses, afin qu'on soit béni. Afin qu'on soit béni. La reconnaissance. Là, c'est le temps des vacances. Il y en a plusieurs qui sont en vacances au milieu de nous, mais c'est le temps pour nous de dire merci à ceux qui s'impliquent. Lorsqu'on les rencontre, hey, merci pour ton ministère. Merci pour la louange. Merci pour l'accueil. Merci les placeurs que vous êtes là. Merci l'éducation chrétienne, que vous préparez des choses pour les enfants, que vous préparez des affaires. Ça fait qu'on est béni. On est béni. On est béni. Puis, je veux regarder ce matin l'importance qu'avait la reconnaissance pour l'apôtre Paul. Puis, ça va nous aider à nous dire, nous aussi, il faut cultiver cette importance de la reconnaissance. Avoir des cœurs reconnaissants. Paul parlait beaucoup de la reconnaissance. Il va dire dans Philippiens 1:3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je suis reconnaissant pour vous. Je suis reconnaissant de tout le souvenir que je garde de vous. » Il va dire aussi dans Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Paul était vraiment reconnaissant. Paul était proche des gens aussi. Dans Acte 20, lorsque Paul a été obligé de... Je ne l'ai pas marqué. Lorsqu'il a été obligé de se séparer des anciens d'Éphèse, lorsqu'il est parti d'Éphèse, il dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé un peu de temps. » Puis là, après ça, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Hein, c'est quelque chose, hein? C'est vraiment quelque chose. Il était proche des gens. Il avait une affinité avec les gens. Mais Paul, dans ces deux versets-là, il fait mention de la reconnaissance à Dieu. Mais il ne faut pas juste le dire à Dieu. Il faut le dire aux hommes aussi. Hein? Moi, si je dis à ma femme, j'y dis jamais, mais je dis, « Oh Seigneur, je l'aime, ma femme. Merci. » Mais si j'y dis jamais que je l'aime, elle ne saura pas. D'avoir rien dit à Dieu. Mais pas c'est pareil, il disait à Dieu, mais il disait aux hommes aussi. Il était capable de dire aux hommes aussi. 1 Corinthiens 16, c'est pratiquement la moitié d'un chapitre où Paul fait juste des remerciements envers ceux qu'il a connus. Il parle de Stéphanos, de Fortunatus, d'Achaïus, de Priscille et Aquila, qui avaient une cellule maison dans leur maison. Mais aujourd'hui, je veux parler surtout des salutations du chapitre 4 de Colossiens. Il y a 4 chapitres dans Colossiens, il y a 3 chapitres de doctrine, puis il y a pratiquement un chapitre qui est juste des remerciements. Juste des remerciements. Des fois, on passe rapidement sur les... Dans la Bible, il y a 2 choses qu'on passe rapidement. Les généalogies, hein, où ça finit plus. Tu sais, tu as 3 chapitres de généalogie. Puis les remerciements. Colossiens, chapitre 4, si je vous demanderais à tout le monde, ben, on passe rapidement dessus. Parce que c'est juste des remerciements pour dire, « Ah, non, c'est pas vraiment ça. T'sais, on aime bien mieux lire les autres affaires. » C'est plus édifiant. Mais dans les remerciements, c'est là qu'on voit vraiment toutes les relations que Paul avait avec les gens autour de lui. C'est là qu'on voit toutes les relations avec ses collaborateurs, avec ses compagnons de service. On voit son appréciation, on voit comment il leur donnait de la valeur à tous ceux qui œuvraient autour de lui. Puis ça, c'est merveilleux de voir ça. C'est merveilleux de voir ça. Fait qu'on va lire ce matin Colossiens, le chapitre 4, du verset 7 à 18. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillaient avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Et on voit là-dedans qu'il y avait plusieurs personnes dans son équipe. Hein? Il y avait toute une équipe. L'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend une équipe. Hein? Le dimanche matin, quand on voit, on arrive ici, c'est toute une équipe. Il y a des placeurs, il y a ceux qui passent l'offrande, il y a des chants, il y a des musiciens. Il y en a le mercredi, il y en a qui sont en cuisine, il y en a qui sont à l'éducation chrétienne, il y en a qui sont en garderie. C'est toute une équipe. Merci Seigneur pour cela. Soyons reconnaissants. Merci Seigneur. Quand j'étais plus jeune, on travaillait, moi et mon épouse, au club des jeunes. On avait peut-être 25 adultes pour à peu près entre 100 et 125 jeunes. On a fait ça pendant 14 ans. Mais on avait toute une équipe. Toute une équipe, et j'étais reconnaissant pour ça. Parce que tout seul, on ne fait rien. Tout seul, c'est difficile. Ça prend toute une équipe. Puis on va regarder l'équipe de Paul. On va commencer avec Tychique. Tout un nom, hein? Puis là, il l'appelle Tychique, le bien-aimé frère, hein, le verset 7, il dit, « Le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. » Hey, c'est-tu assez beau comme introduction? Hein? Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Hey, j'aimerais ça que mon nom sera en premier, hein? Hey, Michel, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Ah, j'aurais aimé ça. Moi, que quelqu'un m'appelle de même. Hein, c'est quelque chose. Tychique, son nom, lui, ça veut dire celui qui apporte du bonheur. Hein, il y a un nom, ça, son nom. Tychique, là, sur 5 fois que son nom est mentionné dans la Bible, 3 fois, son nom est utilisé avec le terme « envoyé ». Paul, il l'envoie en Crète, on voit ça. « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Timis, hâte-toi de venir me rejoindre, etc., etc. » Paul, il l'envoyait à Tite. Un peu plus tard, il va l'envoyer à Éphèse. « J'ai envoyé Tychique à Éphèse. » Puis là, ici, dans notre verset 8, il dit « Je t'envoie Tychique exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console au cœur. » Hey, Tychique, c'est l'homme à qui l'on donne des missions délicates. C'est l'homme qu'on peut compter sur lui. C'est l'homme qu'on peut envoyer, puis on peut dire, il va bien faire les choses. Il va bien résumer ma situation. Amen? C'est merveilleux, Tychique. Et nous aussi, frères et sœurs, on est des envoyés. Hein, c'est ça que ça nous dit dans 2 Corinthiens 5:20. On est des envoyés, on est des ambassadeurs. Hein, parce que Dieu nous a réconciliés avec lui. Ça dit, vous faites donc office de réconciliateur. Hein, ça dit, nous sommes donc aussi ambassadeurs de Christ. Fait qu'on est des ambassadeurs, on est des envoyés aussi. Paul avait ses envoyés, mais le Seigneur a ses envoyés aussi. Amen. Puis on a besoin encore aujourd'hui de Tychiques, d'hommes, de femmes, sur lesquels l'Église peut compter. Sur lesquels l'Église peut compter pour prendre la relève, puis pour être des fidèles, des Tychiques. On en a besoin encore aujourd'hui. Paul en avait un avec lui, mais on en a besoin encore de personnes qui sont fidèles. Je l'envoie avec Onésime. On va voir qu'il l'envoie avec Onésime. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Onésime était des Colossiens avant. Parce qu'Onésime, autrefois, il était un esclave de Philémon. Puis Philémon, il était un Colossien. Onésime, c'est un esclave en fuite, il appartenait à la maison de Philémon. Puis il a volé Philémon, puis il s'est enfui. C'est pas trop bon, hein? Mais par contre, Il a rencontré Paul. Il s'est converti. Il est devenu une nouvelle créature. Puis là, maintenant, il œuvre dans l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose, ça? C'est merveilleux? Puis ça répond vraiment au verset de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Onésime, autrefois un voleur dans la maison de Philémon, maintenant, il a rencontré Paul, il s'est converti, et maintenant, il travaille pour le Seigneur. Amen. Et Onésime, il était tellement transformé puis changé, et il a même eu son épître. Hey, y a-t-il une de nous autres qui a eu son épître dans le Nouveau Testament? Hein, il a eu son épître, l'épître à Onésime, où Paul écrit à Philémon, puis il dit, « Philémon, je t'en conjure devant Dieu, accueille Onésime comme ton frère, pardonne-lui, puis si vraiment il t'a volé, puis il y a des choses à te restituer, moi, Paul, je vais le restituer pour Onésime, parce que c'est mon frère. » Amen. C'est quelque chose, vraiment quelque chose. Et il y en a beaucoup. Quelle grâce de Dieu! Tout un passé, mais tout un Dieu. Aujourd'hui, il retourne à Colosse comme fidèle et bien-aimé frère. C'est-tu pas merveilleux, ça? Et comment est-ce qu'il y en a dans l'Église aujourd'hui qu'avant, il n'y avait pas un passé trop facile, pas un passé dont on pourrait se réjouir, mais qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été pardonnés par la grâce de Dieu, qui se sont relevés, que Dieu a fait un œuvre, puis aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Amen. Et que Dieu peut les utiliser puissamment, des onésimes de Dieu. Alléluia. Des onésimes de Dieu. Aristarque. Le troisième, c'est Aristarque. Aristarque, son compagnon de captivité, toujours présent avec Paul, toujours présent. Il était présent à Éphèse, dans Actes 19. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnons de voyage de Paul. Il était avec Paul, il y a eu une émeute, il était avec Paul. Un petit peu plus tard, on le voit dans Actes 27, le verset 2, lorsque Paul a été emmené prisonnier pour s'en aller comparaître à Rome, qui était là encore une fois sur le bateau? Aristarque était là. Aristarque était là. Quand Paul a fait la prison, qui était là? Aristarque était là. L'ami de tout temps. L'ami de tout temps. On a besoin des amis de tout temps. On a besoin. Le Proverbe 17, 17, ça dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Avons-nous un ami de tout temps? Un ami qu'on peut tout dire? Un ami qu'on peut appeler? Mais dans le service de Dieu, dans l'Église, c'est là qu'on développe des amitiés. C'est là qu'on développe des liens. Nous, on a servi longtemps dans l'Église et c'est là qu'on a développé. On se voit peut-être 45 ans plus tard, quand on était au Club des jeunes. Non, pas tant que ça, là, j'exagère. Là. 35 ans. Et on se revoit aujourd'hui, puis c'est comme si on ne se serait jamais laissé. Ça allait mal dans ma vie. Moi, mon ami de tout temps, il s'appelle comme moi, il s'appelle Michel. Puis quand j'étais mal pris à des gelées, puis ça allait mal, je lâchais un coup de téléphone à Michel. Puis là, on jasait un petit bout. Ça me faisait du bien, je raccrochais. Puis j'avais été capable de partager ce que j'avais sur mon cœur, puis ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. L'ami de tout temps. L'ami de tout temps. Puis dans le service, dans l'Église, c'est là qu'on développe nos amitiés. C'est là qu'on développe des liens avec des gens. Un ami de tout temps. Un ami de tout temps. Après ça, nous avons Épaphras. Épaphras, qui était le responsable de l'Église de Colosse. Puis il dit... Épaphras, qui est dévot, il est dévot de certains parce que c'était lui qui était responsable de l'Église de Colosse, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Le mot en grec pour combattre dans la prière, c'est agoniser. C'était tout un homme de prière. Tout un homme de prière. Le verset 13, ça dit aussi, « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. » Le mot là-dedans, c'est « pour vous ». Pour vous. Il y a une grande sollicitude pour vous. Il ne cesse de prier pour vous. Dans notre société aujourd'hui où les gens sont souvent tournés vers soi, on a besoin de personnes qui sont passionnées pour les autres. Des gens qui ont un cœur pour les autres, qui ont un cœur pour autrui, qui ont un cœur pour les perdus. C'est précieux devant Dieu, ça. C'est précieux devant Dieu. Des gens qui aiment leur ministère, qui ne le fait pas pour l'honneur ou pour la gloire, mais le fait pour les gens. Il le fait pour le Seigneur. Amen. On a besoin de ça. Épaphras, un homme de prière. C'est précieux devant Dieu. Est-ce qu'on trouve encore des hommes de prière aujourd'hui dans notre société? Est-ce qu'on peut trouver dans cette Église des gens qui vont dire, « Moi, je vais devenir un homme ou une femme de prière devant Dieu, afin que l'Église avance, afin que l'Église aille plus loin. » Si on regarde toutes les biographies de Luther, des John Knox, qui passaient des nuits dans la prière, il disait, John Knox, il disait à Dieu, « Donne-moi l'Écosse ou je meurs! » Puis Dieu lui a donné l'Écosse, parce que John Knox l'avait à cœur. Des gens comme John Wesley, Jonathan Edwards, c'est tous des gens qui, avant d'être ministre de l'Évangile, c'était des hommes de prière. Des hommes de prière devant Dieu. On a besoin encore des Épaphras aujourd'hui. Alléluia. Le suivant, c'est Archip. Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Archip, lui, était jeune. Il était responsable de l'Église en l'absence d'Épaphras, puis c'était le fils de Philémon puis d'Appia. Prends garde au ministère que tu as reçu. Sois fidèle. Paul va dire la même chose à Timothée dans 2 Timothée 4:5. Remplis bien ton ministère. Les jeunes dans l'Église ont besoin des anciens. Ils ont besoin des gens comme Paul pour être conseillés, pour être entraînés. J'avais lu une histoire un moment donné d'un jeune qui étudiait en théologie. Puis il a rencontré une fille, puis il a dit, ils sont fiancés, puis il a dit, moi, te présenter mes parents. Ça fait qu'il présente ses parents lors d'un souper. Puis il a dit, ah, ça, c'est mon fiancé, on s'est fiancés, puis on va se marier bientôt. Fait que le père, il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, il dit, j'étudie en théologie. Fait qu'après, il prend part, hein, le père était déjà inquiet, il prend part, il dit, comment tu vas faire? Il dit, pour survenir aux besoins de ma fille. Ben, il dit, moi, je vais étudier en théologie, puis Dieu pourvoira à tous mes besoins. Oui, mais il dit, même que vous ayez des enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Dieu pourvoira. Un petit peu plus tard, il rencontre sa femme, le mari, puis elle dit, « Pis, comment tu l'as trouvé, le jeune? » Il dit, « Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, puis il commence à penser que c'est moi et Dieu. » Les bottines ont besoin de suivre les babines. Hein? Oui, vous voulez étudier en théologie, c'est bien. Mais il va y avoir des efforts à faire. Ça ne se fera pas tout seul. Il va y avoir du travail aussi. Il va être obligé de mettre la main à la pâte. Dieu va pourvoir. Mais Dieu va y pourvoir pour un travail aussi. Amen. Dieu va pourvoir pour tout ce qu'il a de besoin. Mais il va avoir besoin de faire quelques efforts aussi. Comment ça pense, c'est moi Dieu. Puis Paul, il parle aussi de Marc dans ça. Marc, avec lequel Paul s'était chicané autrefois lorsqu'il y avait eu un voyage missionnaire, mais qui avait été capable de se réconcilier avec lui, qui avait été capable de travailler avec lui par la suite, de faire du ministère avec lui. Il parle de justice dont on ne sait pas grand-chose. Puis il parle d'un infos aussi qui accueillait une église dans sa maison. C'est important, ça aussi. Les compagnons de service de Paul. C'est quoi un compagnon? C'est quoi un compagnon dans le ministère? C'est quelqu'un qui accompagne. C'est quelqu'un qui marche avec nous. C'est quelqu'un qui nous côtoie pour nous aider. C'est quelqu'un qui nous comprend. Et c'est quelqu'un qui nous secourt. Amen. Lorsqu'on fait du ministère dans l'Église, c'est ça nos compagnons. Et c'est à ça que ça sert. Quand j'arrivais au Seigneur, j'étais tellement complexé que puis moi, je pensais que c'était rien que moi qui était de même. Qui avait de la misère avec les relations, qui avait de la misère avec les autres, qui n'était pas capable de parler, qui n'était pas capable de faire certaines choses. Puis quand je suis arrivé au Seigneur, j'invitais le plus de monde possible à la maison. Hey, venez à la maison, venez à la maison, venez à la maison. La maison était toujours pleine. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est si j'étais normal. Parce que dans une conversation, tu peux voir si les autres, ils vivent la même chose que toi ou si ils toi. Hein? Fait que j'ai appris à travers des conversations que j'étais normal. Ça m'a consolé. Hein? Parce que je voyais que c'est pas rien que moi qui vivais ça, mais qu'il y en a d'autres qui étaient comme moi, il y en a d'autres qui vivaient ça. Et ça me fait du bien de comprendre qu'on n'est pas tout seul dans notre affaire. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Dieu est là. Un jour, on s'en va d'une retraite, puis le prédicateur, il dit, « Je vais y aller au hasard. Toi, 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 vous allez aller prier par là. Toi, 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 par là. » On ne se connaît pas. Fait qu'on arrive l'autre bord, on ne parle pas gros, on ne se connaît pas. Mais finalement, il y a toujours un plus brave d'un quatre. Puis là, il commence, il dit, « Ouais, moi, je suis venu à la retraite pour telle affaire. » Puis, « Ouais, moi, telle affaire dans ma vie, c'est difficile. » Finalement, le deuxième, « Ouais, moi aussi, c'est pareil. » Puis, les quatre, on était sensiblement le même besoin. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait dans son œuvre. Dieu, il sait comment s'y prendre, puis il sait ce qu'il fait. Les compagnons de Paul. Ecclésiaste 4, 9 à 10, ça dit, « Dieu valent mieux qu'un, parce qu'il en retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Amen. Mais il ne faisait pas juste travailler pour le Seigneur. Il y avait aussi un ministère de consolation et de réconfort. Le verset 8, ça nous dit, Paul il dit, « Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Qu'il console vos cœurs. Puis dans le verset 11, ça dit, « Marc et Jésus, appelés Justus, vous saluent aussi, sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui est pour moi une consolation. » Ici, nous aussi avait besoin de consolation. Tout le monde dans l'œuvre de Dieu en a besoin de consolation. Amen. Les gens de Colosse avaient besoin de consolation, mais Paul aussi a besoin de consolation. Tout le monde, on a des jours qu'on est défaillant, on a des jours qu'on a de la difficulté, on a des jours que c'est dur d'avancer, puis on a besoin de consolation. Tout le monde en a besoin. La consolation est le réconfort. Œuvrer dans une église, c'est là où on peut avoir du réconfort, où on peut avoir de la consolation, où on peut être à l'écoute de Dieu, puis un matin, quelqu'un a besoin et on est là pour lui. Amen. Le premier ministère d'un serviteur du Seigneur, c'est un ministère de consolation. Le ministère de consolation. Et c'est un ministère que Dieu nous a donné aussi. Dans 2 Corinthiens, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes j'ai de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Le ministère de la consolation. C'est un ministère prendre soin les uns des autres. Prendre soin, être efficace dans l'œuvre de Dieu, la consolation, le réconfort. C'est la première chose que souvent on a besoin quand on vient à l'Église, la consolation, le réconfort. Les gens qu'on vient de parler, c'était pas besoin d'être des héros. Pas besoin d'être des héros pour être ces gens-là. Des personnes normales. Des gens comme vous et moi. Pas besoin d'être des vaillants hommes comme le roi David, où lui avait ses 32 hommes qui étaient les vaillants hommes de David. Connaissez-vous les vaillants hommes de David? Les héros? Je vais vous en lire juste trois. Il y en a 32 de même. Je vais vous en lire trois. Écoutez bien ça. Moi, j'arrive pas à le cheville, moi. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bacha et Beth, le Tchakémonite. Déjà là, il est spécial. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. C'était tout un héros, un combattant extraordinaire. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût large et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance par lui. Puis là, il va en nommer un autre. Après lui, Shama. Il y avait une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Des héros qui faisaient des actions extraordinaires. Mais ici, dans Éphésiens 4, on voit des gens ordinaires. Des gens ordinaires. Mais avec un Dieu extraordinaire. Amen. Tichic, qui est un envoyé, qui est un diplomate, qui est un ambassadeur, faisait partie de l'équipe de Paul. Onésime, homme transformé par Dieu et qui maintenant pouvait travailler pour Dieu. Aristarque, l'ami de tout temps, qui était un soutien en tout temps pour Paul. Épaphras, l'homme de prière. Archippe, le leader de jeunesse. Marc et Justus, les consolateurs. Nymphos, qui s'occupait des rencontres maison à la Odyssée. Et quand on regarde ça de même, ça commence à être toute une équipe. Amen? Toute une équipe. Et on a besoin de gens comme ça encore aujourd'hui pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je vais être reconnaissant pour l'Église ici. Je vais être reconnaissant pour ceux qui viennent nous amener dans la louange, dans l'adoration. Je vais être reconnaissant pour ceux qui nous accueillent à la porte. Je vais être reconnaissant pour ceux qui passent l'offrande, pour ceux qui s'occupent du système de son semaine après semaine, qui s'occupent de l'éducation chrétienne, qui s'occupent de tous ceux qu'on ne voit pas dans la comptabilité, dans la gérance de l'argent, pour ceux qui sont le comité pastoral, pour ceux qui préparent les repas et qui préparent les choses. Je veux être reconnaissant ce matin. Parce que c'est toute une équipe devant Dieu. Et prions ce matin que plusieurs puissent se rajouter à cette équipe afin que l'œuvre de Dieu avance, afin qu'il y ait une relève, afin que Dieu fasse un œuvre, afin que Dieu aille chercher d'autres personnes et qu'un bon matin, ça soit trop petit ici. Parce que Dieu aura agi à travers des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Fidèle à son service, fidèle à répondre, « Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux travailler pour toi, à l'avancement de ton royaume. J'ai été comme Onésime, transformé, changé. Maintenant, je veux travailler pour toi, ton œuvre, afin que Dieu soit glorifié et que Dieu en retire toute la gloire. Et ce matin, je veux être reconnaissant envers tous ces gens-là, mais on veut donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui a placé dans le cœur de tous ces gens-là, de toutes ces personnes-là, à cœur de travailler pour lui, pour son œuvre, pour sa gloire. Amen.
Amen.
Levons-nous ensemble pour prier ensemble, pendant que les musiciens vont s'avancer. Alléluia. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Je te prie ce matin, Seigneur, je vais amener devant toi ma reconnaissance, Seigneur. Je vais être reconnaissant ce matin. Et pas juste envers Dieu. Je vais être reconnaissant à pouvoir aller dire à toutes ces personnes, merci ce matin. Merci pour le travail. Merci pour les heures passées. Merci pour ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Ça me bénit ce matin. Ce matin, on va être reconnaissant et que chacun de nous, on puisse prendre à cœur d'être reconnaissant, d'être remerciant pour ces personnes, mais l'apprécier aussi, pas juste devant Dieu, mais en parole. Prendre cet été pour aller vers les personnes et dire merci. Merci pour ton travail. Merci pour ton œuvre. Parce que ça fait du bien au cœur. Je te prie ce matin pour cette Église, Seigneur, afin que ta gloire puisse y habiter, Seigneur. Afin que des gens soient transformés, que des gens soient changés, que des gens viennent à toi. Afin, Seigneur, que cette Église puisse briller dans la région, afin que ton nom soit glorifié et élevé, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Amen, Seigneur.
Amen.